France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La mort de Quentin de Ranque ce week-end à Lyon enflamme le débat politique. Ce jeune militant identitaire a été passé à tabac jeudi soir. Nous ferons le point sur l'enquête. Nous irons à l'Assemblée nationale et nous verrons que la ville de Lyon a déjà été ces dernières années le théâtre de violents affrontements entre extrême gauche et extrême droite. À suivre encore, le ras-le-bol des habitants du sud-ouest, ici Fadois, à Bergerac.
Regardez mes meubles, dans quel état ils sont. Complètement déprimés, hein, quand vous voyez ça, c'est vraiment... Tout a pris l'eau. Ça fait 17 ans qu'on est là, c'est la première fois.
Gironde et Lot-et-Garonne, toujours en vigilance rouge. Pour les crues, pas d'amélioration en vue. Nous verrons que ce phénomène est d'une ampleur rarement vue par sa durée et par son étendue géographique. Nous allons aussi ouvrir les caisses de nos communes. Bonjour Victoria Coussa.
Bonjour.
Dans les clés des municipales, aujourd'hui, on parle d'argent.
Oui, que trouve-t-on dans ces caisses de nos communes? Des impôts locaux, des aides de l'État, mais des recettes aussi dont on parle peu. Et avant les municipales qui approchent, des maires tentent de ménager leurs administrés.
A tout de suite, nous serons également en Russie, 2 ans après la mort de l'opposant Alexei Navalny. Quelques-uns de ses proches se sont rassemblés ce matin. Et à Bormio, en Italie, première manche du slalom olympique catastrophique pour les skieurs français. À partir de 13h30, c'est l'exception dans le monde de l'habillement. La marque française Kiabi se porte très bien. Son PDG est notre invité. Vous êtes client, salarié ou tout simplement curieux? J'attends vos questions. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton rencontre avec un pianiste gardien d'immeuble.
Avant, dans mon ancien appartement microscopique, c'était très très difficile. Je vivotais même de petits cours de piano, de concerts par-ci par-là. Je suis tombé sur cette opportunité de gardien d'immeuble.
Et il est bourré de talent. 13h50, c'est la France à Longwy. La manufacture des émaux joue sa survie cette semaine. Ce sera avec Cécilia Arbona. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le chanteur du groupe Kyo, Benoît Poher, avec Julien Baldacchino. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Qui a tabassé à mort Quentin de Ranque jeudi soir. Cet étudiant lyonnais, militant identitaire, faisait partie d'un groupe d'activistes d'extrême droite venus protester contre la tenue d'un meeting de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Tout cela dans les locaux de Sciences Po Lyon. Ce jeune homme a été roué de coups à 400 mètres de là par plusieurs personnes avant de tenter de rentrer chez lui, d'être pris en charge par les secours. Il est mort samedi matin à l'hôpital. L'affaire est au cœur, et on va le voir, d'une bataille politique intense depuis vendredi soir et sa révélation, la droite et l'extrême droite accusant la France insoumise d'être responsable de cette agression mortelle. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Commençons d'abord par l'enquête. Où en est-elle? Les auteurs sont-ils identifiés? À ce stade, il n'y a pas eu d'interpellation.
Non, toutes les équipes d'enquêteurs lyonnais spécialisées sur les affrontements ultra-gauche et factions identitaires d'extrême droite ont été rappelées ce week-end. Le renseignement territorial aussi, pour des suspects qui seraient déjà fichés S, pouvoir identifier ces hommes qui apparaissent sur la vidéo tournée par un voisin en surplomb, ou encore ces photos de 3 suspects diffusées sur les réseaux sociaux. Mais pour la police judiciaire lyonnaise et le parquet, ça ne suffit pas. Il faut maintenant déterminer exactement qui a fait quoi. On a l'impression, par exemple, que l'un d'eux porte des coups de couteau, vu les gestes. 2 autres ont répété des coups de pied dans la tête. Cela signifie aussi de repérer sur les vidéos de la ville les suspects avant leur passage à l'acte et après, voir avec qui ils ont communiqué, qui était le chef de ce groupe d'activistes, s'il s'agit d'un membre du groupuscule de la Jeune Garde, dissous par le gouvernement l'été dernier. Par exemple, selon nos informations, l'autopsie de la victime devait avoir lieu dans la matinée, ce qui expliquerait pourquoi des arrestations n'ont pas eu lieu ce week-end. Car avec une autopsie, nous confiait tout à l'heure un ancien enquêteur, on peut identifier les angles des coups portés, la gravité des hématomes et mettre les suspects face à leurs actes, y compris en leur montrant des clichés post-mortem.
Emmanuel, comment procèdent les enquêteurs depuis vendredi?
Alors, depuis vendredi, ce que je vous disais, toutes les équipes ont été réunies, évidemment.
Rappeler,
il faut faut faire presque du porte-à-porte,
ouais.
Obtenir des témoignages pour justement conforter les vidéos qui ont été récupérées. Il y a les vidéos de la ville, mais ça peut être des vidéos également de commerçants ou d'autres témoins de la séquence et de ce lynchage.
D'où ce délai pour l'instant dans cette enquête. Merci Emmanuel Leclerc, point presse du procureur de Lyon, cet après-midi à 16h. Avant de voir les conséquences politiques de ce drame, arrêtons-nous sur le contexte lyonnais. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante sur place. Lyon est depuis des années le théâtre d'affrontements parfois très violents entre militants d'extrême gauche et d'extrême droite.
Oui, mais les violences s'étaient calmées ces derniers mois, tandis que différents groupes étaient dissous. La Jeune Garde, côté antifasciste en juin dernier, et la dissolution des Remparts, côté identitaire, en juin 2024, qui s'était accompagnée de la fermeture des locaux fréquentés par les identitaires dans le quartier du Vieux-Lyon. Alors le fait marquant le plus récent, en fait, ici remonte à novembre 2023. Des militants d'ultra-droite tentent alors de s'introduire de force dans une conférence sur la Palestine, faisant 3 blessés légers. Sporadiquement, c'est vrai, ces dernières années, les réseaux sociaux d'un côté ou de l'autre ont fait état d'affrontements ou d'attaques, comme sur les pentes du quartier de la Croix-Rousse. Décembre 2019, un bar ciblé. Mars 2021, une librairie libertaire, la Plume Noire, sans compter les tags innombrables. Hier encore, après la mort de Quentin, ce tag quartier Croix-Rousse, justice pour Quentin, mort R. Arnaud, allusion au député LFI cofondateur de la Jeune Garde. Alors dans ce contexte, évidemment, les autorités sont dans une grande vigilance depuis la mort de Quentin. Audace Lyon, qui se présente comme un collectif nationaliste lyonnais, annonce pour samedi prochain une marche d'hommage. C'est à nous qu'il incombe de faire en sorte que notre camarade ne soit pas mort en vain. Voilà ce qu'on peut lire dans leur communiqué ce week-end.
Mathilde Imberti en direct de Lyon. Conséquence ces dernières heures, une dizaine de permanences d'élus insoumis ont été vandalisées un petit peu partout en France, notamment à Metz, Lille, Toulouse, Montpellier ou encore Castres. Ce matin sur France Inter, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, s'est exprimé sur cette affaire. Il estime que manifestement, je le cite, l'ultra-gauche était à l'œuvre jeudi soir. Il a ainsi évoqué la possible implication dans cette agression du groupe antifasciste La Jeune Garde, on vient d'en parler, groupe fondé par l'actuel député insoumis Raphaël Arnaud. Son assistant parlementaire a même été mis en cause par plusieurs témoins. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Et ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a décidé de suspendre les droits d'accès de cette personne à l'Assemblée.
Oui, alors Jacques-Élie Favreau, qui nie son implication dans le lynchage du jeune militant d'extrême droite, s'était de lui-même déjà mis en retrait de son activité de collaborateur parlementaire auprès de Raphaël Arnaud. La décision de la présidente de l'Assemblée nationale est conforme à ses obligations de protection de l'institution. Yaël Braun-Pivet s'est exprimée sur X, vraisemblablement aussi pour faire taire les accusations en irresponsabilité qui abondent depuis ce week-end sur les réseaux sociaux. On rappellera que lorsque Raphaël Arnaud a été élu député, son appartenance à la Jeune Garde n'était alors contestée que par la droite et l'extrême droite, et que l'organisation prenait à l'origine l'autodéfense et la lutte contre les groupes fascistes, non pas la violence et l'anéantissement physique. La mort de Quentin Derenque rebat les cartes dans un contexte où LFI est désormais classé à l'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur, où il est stigmatisé pour sa violence verbale qui, selon ses détracteurs, débouche inévitablement sur la violence physique. Les municipales et la prochaine présidentielle sont propices aussi à l'instrumentalisation politique. Il est plus que probable que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon va payer très cher le lynchage du jeune Quentin Derenque.
Merci Laurence Perron en direct de l'Assemblée nationale. Les liens entre Jack Lang et le criminel sexuel Jeffrey Epstein intéressent la justice française. Les relations financières qu'ont pu entretenir les deux hommes, des perquisitions ont lieu depuis ce matin dans différents lieux, notamment l'Institut du Monde Arabe, qui était encore il y a quelques jours dirigé par Jack Lang. C'est une enquête qui a été ouverte par le parquet national financier pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Rien à voir donc avec d'éventuels crimes sexuels. Je n'ai rien à cacher, réagit à l'instant Jack Lang. Lui était en haut de l'affiche, l'une des stars du rap français, quand Naps, de son vrai nom Nabil Boukobza, a été accusé de viol. D'abord en 2021 par une jeune femme dans un hôtel parisien, puis en 2024 dans le Var, cette fois par 3 jeunes femmes. Et pour cette première affaire, il est jugé depuis ce matin devant la cour criminelle de Paris. Il comparaît libre sous contrôle judiciaire. Bonjour Manon Lombard-Brunel.
Bonjour.
Son accusatrice est une jeune femme, elle avait 20 ans à l'époque.
Elle en a aujourd'hui 5 de plus. Son regard est fixe, il évite soigneusement celui de Naps. À sa gauche, le rappeur de son vrai nom, Nabil Boukobza, lui non plus ne cherche pas le contact. Il comparaît en survêtement blanc, lunettes fumées sur le nez. L'audience débute par l'exposé des faits. Le récit, notamment de cette soirée du 1er octobre 2021, elle débute dans une boîte de nuit, se termine dans une chambre d'hôtel parisienne, sur invitation de celui qui se présente encore aujourd'hui à la barre comme artiste, producteur, interprète. Depuis le début de la procédure, la plaignante plainte n'a pas changé de version, souligne la présidente. Elle rappelle ce mélange d'alcool et de protoxyde d'azote qui, selon la victime, l'a plongée dans un état de semi-conscience. Victime réveillée par une douleur au vagin, naps et nue au-dessus d'elle. Au cours de l'instruction, ses deux amis présents dans la même chambre d'hôtel assurent que la plaignante était bien en train de dormir. Ce n'est pas la version défendue par Naps, celui que ses ex-compagnes présentent comme infidèle, mais à la sexualité sans extravagance, reconnaît bien la relation sexuelle, mais il certifie qu'elle était consentie, version qu'il a réaffirmée encore une fois ce matin quand la présidente lui a, pour la première fois, donné la parole.
Manon Lombard-Brunel en direct du Palais de Justice de Paris. Elle raconte le chemin parcouru pour se relever du viol. Gisèle Pellicot, qui publie demain avec la romancière Judith Pérignon et La joie de vivre, livre dans lequel elle raconte le procès des viols de Mazan, la condamnation de 50 hommes, ainsi que celle de son ex-mari, mais aussi les témoignages de soutien qu'elle a reçus du monde entier. Elle l'a dit ce matin sur France Inter.
Je ne pensais pas que ma parole aurait trouvé un écho aussi large, y compris au-delà de nos frontières. J'ai reçu des milliers de lettres à travers le monde entier. Et ces lettres, je les ouvre le soir quand je rentre chez moi. Et souvent, je pleure en regardant ces lettres parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes, bien sûr, de viols. Des femmes mariées depuis des années. Il y en a qui n'osent pas partir. Il y en a qui me disent, grâce à vous, je vais aller porter plainte. Je vais même divorcer. Je vais oser quitter mon mari. Ça m'a bouleversée parce que je n'imaginais pas, avant mon procès, qu'il pouvait y avoir autant de souffrance dans cette société. C'est universel.
Gisèle Pellicot. Au micro de Florence Paracuelos et de Benjamin Duhamel. Alors, illustration de l'impact de la parole de Gisèle Pellicot à travers le monde. En Italie, le pays a connu une affaire comparable, celle du réseau Ma Femme, au sein duquel des milliers d'hommes échangeaient en ligne des photos intimes de leurs compagnes. Et notre correspondant à Rome, Bruno Duvic, s'est rendu il y a quelques jours à une conférence sur le thème de la masculinité.
Les violences faites aux femmes sont-elles le fait d'hommes déviants ou le produit d'une culture qui valorise la violence masculine ? Luca, la cinquantaine.
Cette affaire Pellicot est terrible, ça me fiche une trouille dingue. J'imagine qu'il y a en moi quelque chose de commun avec ces hommes violents, mais quoi ? J'ai besoin d'en parler.
Cette question met Giuseppe, retraité, mal à l'aise.
Cette histoire en France, je l'ai peu suivie parce que je n'arrive pas à me projeter dans une telle situation. La plupart des hommes ne sont pas comme ça.
L'orateur Stefano Ciccone, auteur d'un livre intitulé « Les hommes en crise », fait le parallèle entre le procès Pellicot et l'affaire Ma Femme.
Ce sont des hommes qui font du corps de leur femme un instrument de complicité vile. Ce qui frappe dans ces histoires, ce sont bien sûr les violences faites aux femmes, mais aussi la misère d'une sexualité masculine repliée sur elle-même, sale.
Il est aussi question de ce lycée romain où circulait une liste d'élèves et d'enseignantes, guillemets, bonnes à violer. Leonardo est étudiant.
Il faut oublier ce qu'on nous a raconté de la masculinité et en développer une nouvelle conception, plus accueillante, sensible, ouverte.
Le livre de Gisèle Pellicot paraît jeudi en Italie.
Reportage Bruno Duvic en Italie pour Inter. Gisèle Pellicot, l'éveilleuse, ce sera ce soir le thème du Téléphone sonne à partir de 19h20 autour de Fabienne Sintès.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Un déluge qui n'en finit pas dans l'ouest et dans le sud-ouest. Aucune amélioration en vue pour les crues. La semaine s'annonce une nouvelle fois très arrosée. Le niveau de certains cours d'eau qui avaient commencé à baisser repart à la hausse. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
On va faire le point avec vous sur la situation globale dans un instant. D'abord, allons en Dordogne, à Bergerac, quartier de la Brunetière. La semaine dernière, la crue de la rivière Caudeau a inondé une centaine de maisons. Certains habitants ont pu rentrer chez eux et commencer à nettoyer. Reportage Jeanne de Butler.
Marivette tient dans sa main un album photo tout trempé. Elle n'était pas redescendue dans le sous-sol depuis l'inondation. Il y a encore 3 ou 4 cm sous ses bottes fourrées.
Les albums de mes parents, de famille, des photos, des souvenirs. J'ai essayé de les faire sécher. Enfin, tout est fichu, quoi.
Le garage.
On a quand même sauvé nos chats qui allaient se noyer. Bianco et Java qui sont là. Moi, je réalise maintenant qu'on est vraiment traumatisé après ce genre de situation.
Ses amis de la chorale sont venus avec une pompe pour aspirer. Dans la rue d'à côté, Fadoua et Jamila passent la raclette dans la cuisine.
Regardez mes meubles, dans quel état ils sont. Complètement déprimés. Hein. Quand vous voyez ça, c'est vraiment...
Tout a pris l'eau, tout est dégueulasse.
Toutes les pleins de viande, parce que le ramadan est la semaine prochaine, donc tout le plein de viande, tout ce qui a été fait, ça a été jeté.
Ça fait 17 ans qu'on est là, c'est la première fois.
Les experts doivent venir aujourd'hui. Chez Martine, Il y a encore plus d'un mètre d'eau dans le garage.
On a un congélateur, on a un frigo, un sèche-linge, on a des armoires où on met tous nos manteaux, nos chaussures, nos bottes. Il y avait des salons de jardin, il y a l'épicerie de la maison. C'est impressionnant tout ce qu'on a, la tondeuse. Là, on avait tellement d'eau que les pompiers ont dû me porter jusqu'à la barque. On est parti, on était en chaussons.
Et Martine dort chez des amis depuis. On lui a dit qu'elle pourrait rentrer chez elle dans 15 jours. Peut-être.
Sujet ici, Périgord, peut-être, évidemment, rien n'est sûr. Rémi Brancato, aidez-nous à comprendre l'ampleur de ce phénomène. C'est le sud-ouest, le bassin de la Garonne, qui reste le plus touché.
Oui, c'est le point rouge sur cette carte Vigicrue, la Garonne, dans le secteur de Marmande, puis de Langon, en amont de Bordeaux, car ce sont toutes les rivières qui la nourrissent, qui elles-mêmes sont en crue, détaille Lucie Chadourne-Faucon, la directrice de Vigicrue.
Sur les affluents de la Garonne, en fait, il y a eu des pluies à la fois sur les Pyrénées et sur les contreforts du Massif Central. Ce qui provoque en fait des crues sur l'ensemble de ces affluents. Ce qui va jouer, c'est le cumul en fait des crues, des affluents qui vont se propager vers l'aval de la Garonne. Quand on est dans des vigilances de cette nature-là sur la Garonne, ça veut dire que ce sont de grandes surfaces territoriales qui sont effectivement inondées.
Un phénomène intense donc dans le sud-ouest, inédit à l'échelle du pays. 77 départements, 152 cours d'eau touchés. C'est la moitié des rivières surveillées par Vigicrue.
Autre point chaud très surveillé autour d'Angers.
Avec plusieurs cours d'eau classés en vigilance. Orange, le Loir, la Sarthe, la Mayenne, qui se rejoignent pour former en quelque sorte la Maine au sud d'Angers, qui elle-même alimente ensuite la Loire. Vigilance donc aussi en aval entre Angers et Nantes. Il faut suivre les consignes des autorités locales, comme dans toutes les régions concernées, nous dit Vigicrue.
Est-ce qu'on sait comment la situation va évoluer ces prochains jours ?
Eh bien, le pic n'est pas atteint. Vigicrue évoque plutôt un plateau, avec cette semaine une nouvelle aggravation en vue, détaille Lucie Chadourne-Faucon.
Il y a des précipitations qui sont encore attendues toute cette semaine. On a des coefficients de marée qui sont importants pour la semaine de la houle également qui est prévue en mer. Donc on va avoir un phénomène à la fois de crues qui vont vouloir s'écouler vers la mer et de coefficients de marée qui vont contrarier un peu ces écoulements naturels.
Pas de prévision de décrue donc pour l'instant, en tout cas pas avant une semaine.
Merci Rémi Brancato. Les prévisions complètes de Stéphanie Fromentin. Dans un peu moins d'un quart d'heure, j'ajoute qu'en montagne, le risque d'avalanche reste très fort. 4 sur 5 dans tous les massifs de Savoie. Idem pour tous ceux des Pyrénées. L'action à la station de la Mongie est fermée jusqu'à demain matin 8h dans les Hautes-Pyrénées en raison, là encore, des risques d'avalanche. Ce matin, dans les Alpes suisses, 5 personnes ont été blessées dans le déraillement de leur train. Pas de détails sur les circonstances, mais le risque avalanche était là aussi très élevé. Et puis à Madagascar, autre phénomène météo, le passage du cyclone Guezani il y a 6 jours. La ville de Toamasina touchée. Dernier bilan qui nous a été communiqué ce matin. 59 morts et 15 disparus. Les municipales. Notre rendez-vous chaque semaine avec les élections municipales et leurs enjeux. Premier tour. Dans moins d'un mois maintenant, ce sera le 15 mars. Victoria Coussa, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de l'argent. L'argent de nos communes, d'où vient-il ? D'abord des impôts locaux.
Exactement. Alors on va ouvrir ensemble les caisses d'une commune. Plus d'un tiers des sous qu'on y trouve vient de la taxe foncière payée par les propriétaires mais aussi par les entreprises. Son montant dépend de la taille du logement, de sa base d'imposition et des ressources de la municipalité. Et ça c'est crucial pour expliquer les gros écarts de prélèvement entre deux villes d'une même taille.
Est-ce que vous avez un exemple ?
Prenons Boulogne-Billancourt, près de Paris, et Metz. Les deux comptent autant d'habitants, un peu plus de 120 000. Et pourtant on paye deux fois plus dans la capitale de la Moselle, en moyenne 1000 euros par an pour 70 mètres carrés contre à peine 600 pour les Boulonnais.
Ça s'explique parce que à Boulogne, on trouve de nombreux sièges sociaux, sièges d'entreprise.
C'est ça, Vinci, Renault, Yoplait, pour ne citer que, situation très confortable pour le maire qui peut se permettre de ménager ses administrés, des propriétaires qui sont des électeurs. D'autres communes ont d'autres avantages. Un casino, par exemple, c'est une taxe sur les jeux qui rentre dans les caisses. En fait, c'est simple. Plus votre ville est riche, moins vous payez.
Les résidences secondaires aident aussi à faire rentrer de l'argent.
Oui, pour éviter d'avoir à augmenter justement la taxe foncière et de froisser leur électorat avant les municipales, les maires se rattrape sur la taxe d'habitation sur les maisons de vacances, les maisons de campagne puisqu'elle est supprimée depuis 3 ans, vous le savez, sur les logements principaux. Résultat, surtaxe votée l'an dernier jusqu'à 60% dans pas mal de villes comme Roquebrune sur Argence dans le Var ou La Rochelle. Avantage, peu de propriétaires de ces biens sont inscrits sur les listes électorales.
À part les taxes, Victoria, il y a aussi les aides de l'État.
Bien sûr, c'est la dotation globale de fonctionnement pour permettre de faire tourner la machine. Les services publics, sujet de bras de fer au Sénat lors des débats budgétaires puisqu'elle diminue au fil des années. Les communes les plus riches ne touchent quasiment rien, c'est en fonction des moyens de chacune. C'est l'État qui décide et sort le chéquier quand il faut aider une ville à accueillir du monde. Donc pour les édiles, attirer de nouvelles familles, devoir agrandir les infrastructures, ouvrir des classes, eh bien ça rapporte des dotations. Et puis il y a les subventions du département, de la région, de l'Europe pour de grands projets et pour ça, il faut monter de gros dossiers.
Et dans les caisses, on trouve d'autres types de recettes.
Pêle-mêle, la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, une partie des frais de notaire quand vous achetez un appartement, une maison ou de votre abonnement à la piscine municipale, le portage de repas aux seniors, les cantines, le droit de terrasse des restaurants, la vente de bois s'il y en a, la location de la salle des fêtes pour les mariages. Un maire d'Île-de-France, 5000 habitants, me racontait que l'accueil d'une antenne relais Orange rapportait 40 000 euros par an à sa commune. Vous l'avez compris, tout est bon à prendre.
C'est la chasse à l'euro. Merci oui. Victoria Coussa. Les clés des municipales que vous retrouvez sur l'application France Inter avec tous les rendez-vous précédents. Il commence à y en avoir pas mal. 2 ans après la mort en prison de l'opposant russe Alexei Navalny, l'enquête menée par 5 pays européens, dont la France, sur des échantillons prélevés sur sa dépouille. Cette enquête est formelle. Il a bien été empoisonné avec une toxine rare, révélation faite ce week-end et réaction ce matin de la présidence russe qui juge ces accusations infondées. Mais ces conclusions n'ont surpris personne parmi les soutiens de Navalny venus lui rendre hommage ce matin, cimetière de Borisovo à Moscou, sous l'œil de notre correspondant Sylvain Tronchet.
Comme l'an dernier, Lyudmila Navalnaya est venue se recueillir sur la tombe de son fils. Courte cérémonie religieuse, par moins 15 degrés, en présence d'une centaine de personnes, la mère de l'opposant réclame justice pour son fils. Pour elle, il est clair qu'il a été empoisonné et nous finirons par découvrir qui l'a fait, dit-elle avant de repartir. Un avis partagé par Artyom, 18 ans, qui n'a pas été surpris par les révélations de ce week-end.
Je pense que c'était déjà clair, mais le mode opératoire précis et la toxine utilisée n'avaient pas été identifiés. Pour moi, ce n'est pas vraiment une révélation, c'est juste une clarification des circonstances.
Les services de sécurité restent à distance du cimetière, mais la surveillance est palpable. Malgré cela, dès l'ouverture, certains attendaient une fleur à la main. Irina, une retraitée, était déjà là l'an dernier. Et elle est venue soutenir la mère d'Alexei Navalny.
C'est très difficile pour une mère de perdre ses enfants, de les élever dans l'honnêteté et la dignité, et ensuite, malheureusement, d'en payer le prix. Les principes moraux les plus élevés doivent parfois être défendus au prix de sa vie pour ne pas avoir peur.
La peur, malgré tout, empêchera d'autres Russes de venir aujourd'hui pendant la cérémonie, alors que le Kremlin démentait les accusations d'empoisonnement. À 1500 km de là, un ancien militant d'Alexei Navalny était condamné à 2 ans et demi de prison. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Eurelex, c'est la centrale d'achat européenne du distributeur français Leclerc. Eh bien, cette centrale vient d'être sanctionnée par la France, une amende de plus de 33 millions d'euros. Elle n'a pas respecté l'an dernier la date limite fixée pour boucler les négociations commerciales. Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
Ça concerne des négociations qui en fait sont menées en Belgique. C'est une technique qui est bien connue dans le secteur de la grande distribution.
Oui, et c'est une façon d'accentuer la pression sur les entreprises agroalimentaires françaises, dénoncent leurs représentants. Elles sont environ 80 à avoir dû négocier l'an dernier le prix final de leur yaourt ou paquet de jambon en rayon hors de France, avec des centrales d'achat européennes comme Eurelec, basée à Bruxelles, à laquelle est donc associé Leclerc, aux côtés de 2 autres géants de la grande distribution, un Allemand et un Belgo-Néerlandais. Eurelec n'en est pas à sa première sanction pour avoir fait durer les négociations commerciales au-delà de la date butoir du 1er mars. L'an dernier, par exemple, elle a écopé d'une amende de 38 millions d'euros. En septembre, la moitié des contrats d'achat n'étaient toujours pas signés. Pour les industriels alimentaires, ces amendes sont insuffisantes, pas assez dissuasives et marginales par rapport aux gains que les centrales d'achat obtiennent en tirant au maximum les prix prix vers le bas. Une manière de contourner la loi française Egalim selon eux, dont l'objectif est de garantir un prix rémunérateur aux producteurs. Les distributeurs, eux, se défendent en expliquant que les négociations à l'international sont un moyen de peser face aux multinationales comme Nestlé ou Unilever, qui, je cite, selon Michel-Édouard Leclerc, ne représentent pas les intérêts des agriculteurs.
Maria Melkurdi, vous avez forcément reçu ces derniers mois ce type d'appel. Soit un démarchage, bonjour, je suis un conseiller en énergie, j'ai plein d'argent à vous faire gagner, soit carrément une tentative de fraude, je suis votre banque, donnez-moi vos codes, vous venez d'être piraté. Ce type de signalement, ce type d'appel frauduleux est en train d'exploser dans notre pays, multiplié par 2 en 2025, d'après le régulateur du secteur, multiplié par 11 en seulement 2 ans. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Pourquoi une telle hausse?
Alors les raisons sont multiples. Les fraudeurs ont déjà aujourd'hui plus facilement accès en ligne à des outils pour tromper les utilisateurs, souligne l'autorité de régulation. Des escrocs probablement mieux organisés, avec des techniques plus modernes. Les plaintes de consommateurs pour usurpation de numéros de téléphone ont été multipliées par plus de 30 sur les 3 dernières années. Cyril Brosset de l'association de consommateurs UFC Que Choisir met lui en avant une hypothèse.
On peut imaginer que c'est lié aux nombreuses fuites de données qu'on a vues ces derniers mois. Les escrocs ont de plus en plus de données sur les Français et donc ils les appellent parce qu'ils ont leur numéro de téléphone, ils ont parfois leur adresse, leur nom, parfois même les derniers chiffres de leur carte bancaire.
Il faut aussi s'interroger sur l'efficacité des mesures en place. Par exemple, le Bloctel, censé empêcher le démarchage téléphonique.
On s'est aperçu que ça ne marchait pas du tout. Déjà, il y a seulement 10% des Français qui étaient inscrits sur cette liste-là, donc elle était mal connue. Et puis en plus, il y a beaucoup de sociétés qui s'en fichaient complètement, qui passaient outre parce qu'il n'y avait pas de sanctions derrière.
Et puis les opérateurs respectent-ils bien leurs obligations? Ils doivent s'assurer que quand on est contacté, le numéro soit authentifié et couper tous les appels qui imitent un autre numéro de téléphone. Et même depuis décembre, ils doivent afficher « appel masqué » en cas de doute. Le régulateur des télécommunications a d'ailleurs ouvert en janvier une enquête administrative sur les opérateurs français.
Luc Chemla pour ses explications. Le tabac responsable de 68 000 décès évitables en 2023 en France. Des chiffres encourageants, nous dit Santé publique France, car c'était 75 000 décès évitables en 2015. Le tabagisme, dans le détail, est en cause pour 16% des décès chez les hommes, 6% chez les femmes. En Creuse, c'est un groupe de narcotiques anonymes qui vient d'être créé. Un groupe de parole sur le modèle des alcooliques anonymes, mais pour des consommateurs de drogue. Ce groupe a été lancé par Mathieu et Émilie, venus de Paris. Ils viennent de s'installer dans le département. C'était il y a quelques mois. Marie-Jeanne Delpol les a rencontrés.
Après presque 2 ans d'abstinence, Mathieu, 43 ans, a le sourire.
Je me sens très bien. Je me sens très bien de se lever le matin et d'être clean, d'être clair. Contrairement à avant, la première chose que je faisais quand je me levais, c'était de chercher du produit. Maintenant, ma vie tourne autour de ma famille, de mon boulot. Je revis. Je ne sais même pas je revis, c'est je vis.
Parce que Mathieu revient de loin, sa compagne aussi. Émilie a commencé l'alcool et le cannabis quand elle avait 13 ans et s'est ensuite montée crescendo.
Je consommais alcool, cocaïne et benzo. Donc les benzo, c'est des médicaments. Et ça tout le temps, tous les jours, sans pouvoir m'arrêter. Ça a été vraiment la descente aux enfers.
L'enfer jusqu'à croiser la route des narcotiques anonymes.
En fait, la méthode, c'est un groupe de parole. On s'écoute, on s'entraide. Et après, on n'a pas de solution miracle. C'est de se dire qu'on n'est pas seul.
Pour moi, j'avais envie d'arrêter de consommer, mais ça ne fonctionnait pas. Et j'ai pu voir que des gens y arrivaient, qui avaient 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que c'était possible. Mais ensemble.
Tout ça, c'était à Paris, mais en déménageant en Creuse il y a 6 mois.
On a pu voir qu'en Creuse, il n'y avait pas grand-chose pour les personnes dépendantes.
D'où l'envie de créer un groupe de narcotiques anonymes à Guéret tous les 15 jours.
Ici Creuse pour ce reportage, idem pour retrouver les liens vers cette association. Les Jeux d'hiver en Italie, Milan, Cortina. On espérait une nouvelle médaille pour l'équipe de France ce matin. En slalom, ça n'est pas impossible, mais il va falloir un véritable exploit. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Jérôme.
La matinée a été catastrophique pour les slalomeurs français.
Absolument, au point que Clément Noël a utilisé le mot honte ce matin après la première manche, lui qui pointe à la 7e place, loin, très loin du leader, le Norvégien Atleli McGrath à 1 seconde 96 centième. Clément Noël ne conservera pas son titre olympique décroché en 2022 à Pékin, il le sait, mais il peut encore monter sur la 3e place du podium vu le nombre d'abandons records de la matinée. 49 skieurs sont sortis sur 96 au départ, c'est plus de la moitié, dont deux Français, Paco Rassa et Léo Anguenaud, mais il aura besoin de deux choses, Clément Noël, pour récupérer cette seconde qui le sépare de la 3e place, réaliser un exploit, le meilleur temps de la seconde manche. Il en est capable, surtout avec le tracé réalisé par l'entraîneur français Romain Vélez, et compter sur les sorties de piste de ses rivaux, le Suisse Loïc Meillard, les Autrichiens Stein, Schwarz, les Norvégiens Hogan, Christoffersen, le Belge Armand Marchand. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Passage de Clément Noël aux alentours de 14h05. Le début de la course commence dans 39 secondes. L'autre Français qualifié pour la 2e manche, Steven Amier, prendra le départ, mais sans aucun espoir de médaille. Il a plus de 4 secondes de retard.
Début de la 2e manche imminent donc. Merci Guillaume Battin en direct de Bormio en Italie avec Romain Lucquens, 13h29 sur Inter. Oui, quand on va trop vite, on enfourche. C'est vrai à la radio, c'est vrai aussi pour le ski à suivre dans la prochaine demi-heure. La météo, Stéphanie Fromentin. Puis à 13h30, le directeur général de la marque Kiabi avec nous, une enseigne de l'habillement qui se porte bien. C'est plutôt rare. 01 45 24 7000 pour vos questions. Si vous êtes client, par exemple, 13h45, notre feuilleton en musique toute cette semaine avec un pianiste qui est aussi gardien d'immeuble. Rencontre étonnante dans moins d'un quart d'heure. Et puis 13h50, c'est la France. Cécilia Arbona, Julien Baldacchino. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Cécilia, vous nous emmenez en Lorraine.
La manufacture des émaux de Longwy est en péril. Elle présente son plan de sauvetage ce jeudi au tribunal de commerce de Briey.
Et avec vous, Julien, un chanteur.
Benoît Power, leader du groupe Kyo, qui nous raconte son lien à la chanson Black or White de Michael Jackson et surtout à son clip.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
Entendez tout sans que personne ne le sache grâce aux aides auditives quasi invisibles Incognito d'Afflelou et à la beauté du son généré par intelligence artificielle.
Bien entendre, c'est rester connecté à ce que vous aimez. Alain Flelou, opticien et acousticien. Selon les modèles Incognito, renseignez-vous en magasin. Dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
Akena.com. Akena.com, ok.
Attention Chantal, c'est à vous.
Vous cherchez votre véranda, votre pergola, un carport ou un poulaouse? Inutile de faire une recherche ailleurs, tapez directement Akena.com.
Oh là là, t'as vu Victor, la première prise c'était la bonne.
Eh oui coco, c'est un métier.
Véranda, pergola et carport sur
Akena.com.
France Inter, partenaire de la tournée des Misérables. La comédie musicale légendaire d'Alain Boublil et Claude-Michel Schoenberg a conquis plus de 130 millions de spectateurs dans le monde. Après son triomphe au Théâtre du Châtelet et récompensé du Molière du spectacle musical, elle revient au printemps 2026 pour une tournée exceptionnelle dans une mise en scène magistrale de Ladislas Chola. Les Misérables, en tournée à Lyon, Nantes et Lille, du 18 février au 26 avril, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme.
Encore de la pluie aujourd'hui.
Ce temps pluvieux perdure, oui, du sud-ouest au centre-est. Les pluies sont soutenues au sud de la Garonne, sur les contreforts ouest du massif central et le piémont pyrénéen, avec une limite pluie-neige qui s'abaisse à 1200 mètres en soirée. Plusieurs vigilances sont prévues. Vigilance rouge crue pour la Gironde et Lot-et-Garonne. Vigilance orange crue pour 14 autres départements de la façade ouest. Vigilance orange avalanche pour 9 départements alpins et pyrénéens. Et puis vigilance orange pluie inondation pour 4 départements pyrénéens. Plus au nord, de l'estuaire de la Gironde aux frontières du nord-est, les averses se succèdent toute la journée. Elles peuvent se mêler de grésil, de coups de tonnerre au nord. Les précipitations sont aussi copieuses sur l'ouest de la Corse, tandis qu'en bord de Méditerranée, le ciel est voilé, mais le temps reste sec et doux.
Et beaucoup de vent avec ces intempéries.
Météo France prévoit un vent modéré à assez fort sur l'ensemble de l'Hexagone, 50-60 km par heure dans les terres, 70-90 sur les côtes de Manche et dans le domaine de la Tramontagne, 100-120 sur les crêtes alpines ainsi que sur les caps corses. Et puis la douceur est de retour après un week-end hivernal. Les maximales affichent 7 à 12 degrés sur la moitié nord, 12 à 18 dans le sud.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Patrick Stassi.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes le directeur général de la marque française d'habillement Kiabi, qui appartient au groupe Mulier, que les consommateurs connaissent pour ses marques Auchan, Alinéa ou encore Decathlon. Et Kiabi, c'est une enseigne qui séduit de plus en plus de consommateurs, alors que le secteur de l'habillement, lui, est en crise. On va tenter de comprendre et en parler ensemble, mais aussi avec les auditeurs qui peuvent vous interroger. 01 45 24 7000, vous passez également via l'application Radio France et l'onglet réagir. Avant de venir à la santé de votre entreprise, Patrick Stassi, un mot de votre parcours. Vous avez commencé comme chef de rayon.
J'ai commencé comme chef de rayon chez Decathlon.
C'est ça.
J'ai passé 17 ans et j'ai rejoint Kiabi il y a une douzaine d'années.
Donc vous êtes un pur produit de l'école Mulier,
voilà,
si je puis
dire ça.
Qu'est-ce que vous avez appris dans les rayons qui vous est utile aujourd'hui et qui vous guide dans vos choix?
Voilà, la chose la plus importante, c'est l'autonomie qui est laissée aux collaborateurs pour justement prendre toutes les décisions, depuis le plus petit compte d'exploitation, qui est un compte d'exploitation d'un rayon, jusqu'à un groupe comme Kiabi, qui fait maintenant 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors taxes, 3 milliards en TTC.
Autonomie, ça veut dire que chaque magasin fait ce qu'il veut dans la mise en place?
Non, ça veut dire que chaque responsable de rayon...
Quelle est la marge de manœuvre?
Ça veut dire que chaque chef de rayon, responsable de rayon, apprend sur le terrain, au contact de ses clients, à manager une équipe et à s'occuper du retail, donc d'un rayon.
Il y a des formations en interne?
Bien sûr.
Vous avez appris comme ça. Vous y avez fait référence, Patrick Stassi. 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, plus 8%. Vous avez ouvert 8 magasins en France. Comment est-ce que vous l'expliquez dans un secteur, je le disais, qui est déprimé, le secteur du textile?
Oui, et je crois qu'il faut rester humble, hein, parce qu'on est sur un secteur sur lequel le vent peut tourner très vite. Donc il faut rester humble dans cette performance. Mais c'est vrai qu'on fait de la croissance... régulièrement et pas uniquement l'année dernière, depuis en tout cas l'après-Covid, on est en train de croître chaque année. On a une vision française, mais on est présent également à l'international, puisqu'on a quasiment 700 magasins dans 37 pays.
Comment est-ce que vous l'expliquez?
Oui, je pense qu'on a, quatre éléments qui pourraient l'expliquer. Le premier, c'est notre ADN de mode de qualité à petit prix. C'est un ADN qu'on a gardé et on a une offre, donc des chefs de produits, des stylistes talentueux qui proposent à nos clients une offre de qualité au juste prix qui plaît à nos clients. Le deuxième élément, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est qu'on a un actionnariat familial long terme. Donc on n'est pas adossé à un fonds d'investissement qui veut revendre l'entreprise dans quelques années.
Vous n'avez pas été revendu 3 fois en 10 ans.
Exactement, et voire même la vision elle est vraiment très très long terme pour nos actionnaires familiaux. Le troisième élément c'est notre culture humaine, l'engagement de nos collaborateurs à prendre soin de nos clients et on mesure à chaque fois la satisfaction de nos clients et en symétrie la satisfaction de nos collaborateurs. Et puis le dernier élément c'est qu'à travers un ADN retail, mode de qualité à petit prix qu'on a gardé, on continue à innover. Et on a aujourd'hui une direction innovation avec une trentaine de personnes qui continuent à faire des tests. Et pour vous donner un exemple, on a été les premiers retailers, par exemple, à tester la seconde main.
Retail, qu'est-ce que ça veut dire?
Retail, c'est un ensemble de commerçants, magasins et digitaux.
Quand on fait du retail, ça veut dire qu'on fait de la vente?
Ça veut dire qu'on... Oui, ça veut dire qu'on fait de la vente, tout à fait, qu'on fait
bon,
du commerce.
Mais on emploie beaucoup d'anglicisme dans votre secteur d'activité, comme peut-être dans d'autres, Patrick Stassi. Tout de même, ça veut dire que votre part, elle est plus grande, mais dans un gâteau qui se réduit. Est-ce que ça suscite des interrogations de votre côté? Et est-ce que c'est aussi pour ça que vous essayez de vous diversifier?
Alors, on se diversifie pour répondre aux besoins de nos clients. On a 25 millions de clients dans le monde. Et donc, nos clients viennent chez nous aujourd'hui pour acheter des vêtements. Et nos clients nous demandent de la maison, du sport, des chaussures, par exemple, pour leurs enfants. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se diversifie. Ça nous permet de répondre aux besoins de nos clients. On est extrêmement bien positionné sur le marché du bébé. Vous savez, en France, si je vous donne l'exemple de la France, il y a 600 000 naissances par an. On ouvre chaque année 400 000 livrets bébés, qui est le programme de fidélité pour les jeunes mamans. Et donc, pour répondre à ces besoins familiaux, effectivement, on a ouvert notre offre à autre chose qu'uniquement des vêtements.
Mais vous ne vous dites pas que, compte tenu de la natalité qui ne cesse de baisser, à un moment, investir pour les familles et pour les bébés, ça ne va pas se retourner contre vous?
Alors, on est positionné sur l'homme, la femme, l'enfant, le bébé, la maison, la lingerie. On fait des collections grande taille. On fait également des collections pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, le bébé en fait partie, mais on a un positionnement vraiment familial au service des familles.
Vous nous avez parlé des petits prix. Quelle est la différence entre un vêtement que je vais acheter chez Kiabi ou un vêtement que je vais acheter en ligne via des plateformes chinoises dont on parle beaucoup, Chine et Temu? C'est quoi la différence?
Alors, je suis mal placé pour vous parler de Chine parce que je ne les connais pas dans le détail. Par contre, ce que je peux vous dire...
Vous regardez quand même ce qu'ils font.
Oui, mais
c'est
vos concurrents. Pas à l'intérieur d'entreprise.
Non, mais bon, je suppose que vous achetez, vous voyez un peu ce qu'ils font, ce qu'ils proposent,
vous
comparez les prix.
Ce que je peux vous dire, c'est que notre acte d'achat passe par nos magasins, puisqu'on a 700 magasins dans le monde, 350 en France. Et puis, on travaille effectivement depuis longtemps sur un engagement environnemental et sociétal qui est complètement inscrit dans nos stratégies au même niveau que l'économique. On a prévu, sur nos indicateurs environnementaux, puisqu'on peut en parler quand on parle des plateformes chinoises, on a prévu de réduire de 25% nos émissions carbone d'ici 2035, sachant que les émissions carbone ne sont qu'un élément de notre trajectoire, puisque consommation d'eau et biodiversité font partie aussi de notre trajectoire environnementale.
Mais vous faites fabriquer vos vêtements aussi en Chine? Ils sont fabriqués en Chine,
alors
les vêtements qui habillent?
Vous savez, on est dans 37 pays partout dans le monde, donc on fait fabriquer...
37 pays de production?
Non, 37 pays de distribution.
D'accord.
On vend dans 37 pays, donc on fait fabriquer partout dans le monde, là où il y a la compétence. Pas peu en Chine, un petit peu en Chine, mais on fait fabriquer en Inde, on fait fabriquer dans le bassin euro-méditerranéen. On fait fabriquer également des centaines de milliers de quantités en France. Également, donc sachant qu'on n'est pas que distributeur français, mais distributeur partout dans le monde.
Qu'est-ce que vous faites fabriquer en France, par
exemple ? On fait du jean et on fait du tricot, par exemple. Le jean, c'est dans le nord, au Denim Center, et le tricot, c'est manufacture de la layette à Roanne.
Donc du jean fabriqué dans le nord et d'autres, donc la layette dans la Loire, toujours avec des prix bas ?
Toujours avec des prix bas, évidemment, notre modèle est un modèle d'accessibilité aux familles, donc avec des prix bas.
Mais comment est-ce que vous faites pour proposer des prix bas avec, vraiment sur ces deux produits, layette et jean, fabriqués en France? Alors avec des conditions de production françaises, avec des salaires minimum le SMIC, enfin voilà, avec ces contraintes-là,
oui,
qui sont aussi des avantages et un modèle social qui permet aux Français de vivre comme ils vivent.
Bien sûr, ces produits ont des prix de vente plus élevés que les produits fabriqués en Inde, par exemple, sachant que c'est une industrie qui est fragmentée, le textile. On parle de confection quand on parle d'industrie française. Vous imaginez bien qu'avant, il y a du tissu, avant, il y a du fil, et avant, il y a du coton, puisque 70% de nos matières sont naturelles. Et quand on parle de coton, le coton, il ne pousse pas en France. Il pousse en Inde, il pousse au Pakistan, il pousse aux États-Unis, il pousse en Turquie, il pousse au Brésil.
Donc, pour ces produits-là, plus cher que pour les autres que
vous
proposez.
Oui, ça fait partie de notre structure de gamme.
Jean-Louis nous appelle de Marseille. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Jérôme, bonjour Monsieur Stassi.
Nous vous écoutons.
J'aurais une question à vous poser, Monsieur Stassi. Vous revendiquez une mode accessible et durable, mais votre modèle reste fondé sur des volumes importants et des prix très bas. Expliquez-moi, comment pouvez-vous concilier réellement cette promesse de durabilité avec un système qui, par nature, pousse à produire toujours plus ?
Merci Jean-Louis pour cette question. Patrick Stassi, vous répondez.
C'est une très bonne question et je vais évidemment y répondre. On vend beaucoup parce qu'on a beaucoup de magasins. Encore une fois, on a 700 magasins, donc effectivement, on a du volume lié à notre empreinte de nombre de magasins. Et donc, ces volumes nous permettent de travailler jusqu'à l'amont pour effectivement retravailler le modèle, ou en tout cas, travailler un modèle de prix bas.
Mais ça veut dire vendre beaucoup, forcément, des vêtements qui ne vont pas durer peut-être des années?
Alors, pas tout à fait, puisque notre modèle, il est basé sur... on est des magasins de destination pour habiller les familles. Et donc, le poids de nos produits basiques, de nos produits essentiels, est conséquent. Et on lutte même contre l'obsolescence émotionnelle des produits. Alors évidemment, dans nos
signatures... C'est quoi l'obsolescence émotionnelle ?
C'est la vente frénésique de produits qui ne sont pas durables. Donc nous, notre positionnement, il est effectivement basé sur des produits durables.
Vos concurrents, certains de vos concurrents, Carrefour via sa marque Tex, mais aussi Leclerc ou encore Promode, ont annoncé récemment qu'ils allaient afficher l'éco-score de leurs vêtements sur les étiquettes, c'est-à-dire le coût environnemental, l'ensemble des impacts générés par un vêtement tout au long de son cycle de vie. Ça commence par l'approvisionnement des matières, la fabrication, le transport, jusqu'à la fin de vie en tant que déchet, etc. Est-ce que vous allez le faire chez Kiabi ?
Alors, je peux même vous répondre de manière beaucoup plus concrète. On le fait déjà depuis l'année dernière, de manière volontaire, en accord avec le ministre de la Transition écologique et puis en accord avec l'ADEME.
C'est l'éco-score tel qu'il est proposé ?
Bien sûr, il est sur notre site. Alors aujourd'hui, on a 75% de nos vêtements qui affichent l'éco-sport et on sera à 100% à la fin de cette année. Donc c'est un sujet qui est technique, hein, donc c'est la raison pour laquelle il nous reste encore un petit peu de travail pour finir cet affichage.
Vous l'avez déjà évoqué, Patrick Stassi, mais c'est une activité qui prend beaucoup d'ampleur et beaucoup de place dans le commerce et notamment dans le textile. C'est la seconde main. Comment est-ce que vous expliquez le phénomène et comment est-ce que vous essayez de vous y adapter ?
Alors le phénomène, ça correspond à un besoin client, puisque nos clients et les clients consomment de la seconde main. Nous, on a lancé la seconde main il y a environ 3-4 ans, avec un objectif qui est de pouvoir atténuer notre impact carbone, puisque vous savez, dans notre industrie, l'impact carbone, il se fait au moment de la production. Et donc, en permettant à nos clients de consommer de la seconde main, on s'habitue à aller vers de la circularité et on abaisse notre trajectoire carbone.
Donc dans chacun de vos magasins, il y a ce qu'on appelle, je reviens à un anglicisme, un corner, un coin dans lequel on trouve des vêtements de seconde main, c'est ça ?
Oui, 100% de nos magasins en France, plus notre site internet. Donc on a lancé une marque qui s'appelle Bibs by Kiabi, qui permet effectivement à nos clients de s'offrir cette seconde main.
Ce sont des vêtements Kiabi ?
Non, ce sont tout type de vêtements.
Donc je rapporte, je vous revends, comment ça marche?
Oui c'est ça, il y a plusieurs formules sur le site, c'est du C2C, donc c'est des clients qui se revendent entre eux vers d'autres clients, et en magasin effectivement on rachète les vêtements.
Et ça prend de plus en plus de place?
Ça prend de plus en plus de place parce que ça correspond à un besoin de nos clients effectivement.
Alors dans la diversification, vous nous avez parlé des enfants, avec des chaussures pour enfants je crois, et vous vous orientez vers le sport. Des produits de sport, mais si j'ai bien compris, pas vraiment pour sportifs de haut niveau. C'est quoi votre objectif, sachant que vous êtes dans le groupe Mullier, je crois, hein, une enseigne que vous connaissez bien, qui est Decathlon, qui fait aussi des articles de sport.
Ouais, tout à fait.
Vous allez les concurrencer?
On est sur une gamme de sport loisirs qui correspondent aux besoins de nos 25 millions de clients.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez proposer?
On propose des vêtements, des chaussures et des accessoires pour une activité sportive en loisirs, donc loin du positionnement technique de Decathlon.
Là encore, c'est une stratégie de se dire que peut-être rester sur le textile traditionnel, oui, c'est peut-être risqué.
Oui, et puis il y a une tendance de fond, effectivement, de s'habiller en sportswear, donc on fait partie de cette tendance puisqu'on répond aux besoins des familles.
Vous avez lancé votre application, Kiabi. Est-ce que vous vous dites que le commerce physique a toujours un avenir pour le textile?
Oui, l'application, c'est un outil au service des clients pour préparer leur visite, pour accéder à leur carte de fidélité, pour pouvoir effectivement faire la seconde main à travers Bips. Donc c'est vraiment un outil au service d'une expérience omnicanale, donc digitale et magasin.
Mais les magasins ont un avenir, selon vous, Patrick Stassi,
bien sûr,
modèle économique?
Magasins, l'expérience shopping des clients physiquement, la relation de proximité avec nos équipes, elle est extrêmement importante. Donc les magasins ont un avenir.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Ce qui nous fait dire ça, c'est la consommation de nos clients qui préparent leur visite sur Internet et même quand ils achètent sur Internet ou sur notre app, se rendent en magasin dans 75% des cas pour vivre cette expérience, retirer leur colis ou leur article en magasin.
Donc vous allez en ouvrir de nouveau cette année, vous savez déjà où?
Oui, des magasins, on va ouvrir des nouveaux. On va ouvrir environ une cinquantaine de magasins l'année prochaine dans 7 nouveaux pays. On ouvre la Suisse. On ouvre en Argentine l'année prochaine, on ouvre en Bulgarie par exemple, donc oui, on continue notre développement.
Pour ce qui est de la France, vous ouvrez plutôt en périphérie ou plutôt en centre-ville?
Alors on est plutôt en périphérie, on n'a pas de modèle de centre-ville, même si on a quelques modèles qu'on teste en centre-ville.
Il n'y a pas de Kiabi en centre-ville?
Si, il y en a quelques-uns, mais non pas beaucoup, c'est pas notre modèle aujourd'hui.
Ça marche moins bien?
C'est pas que ça marche moins bien, c'est que les emplacements sont plus chers, donc le ratio chiffre d'affaires sur frais est encore élevé pour notre modèle de prix bas et on veut conserver les prix bas pour nos clients.
3 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, est-ce que vos salariés en ont profité? Est-ce qu'il y a eu un intéressement? Est-ce que les salaires ont augmenté chez Kiabi
l'an dernier?
Bien sûr
qu'il y a un intéressement. En France, il y a la participation légale, il y a l'intéressement et particularité, 87% de nos salariés en France sont actionnaires de l'entreprise, donc bénéficient de la valorisation et de la revalorisation de Kiabi.
87% de salariés qui ont une part
de l'entreprise, tout à fait.
Merci Patrick Stassi d'avoir été avec nous aujourd'hui, directeur général de la marque française d'habillement Kiabi, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton nous emmène à la découverte d'une personnalité qui est à part. Il s'appelle Audric De Oliveira, il a 33 ans, c'est un pianiste virtuose, vous allez l'entendre, et il est devenu gardien d'immeuble dans les beaux quartiers de Paris. Il a étudié le piano dans les plus prestigieuses écoles de musique du monde, mais il n'a pas réussi à vivre de sa passion, alors c'est dans sa loge de gardien que nous le retrouvons, grâce à notre reporter Vanessa Descoureau.
Enchanté, allez-y, c'est juste là. Bienvenue dans ma petite loge qui fait environ 14 mètres carrés. Tout à ma droite, il y a mon piano, la pièce maîtresse de cette loge. Un canapé, une toute petite cuisine et une mini salle de bain et on est bon, voilà. Moi, c'est Audric De Oliveira. J'ai 33 ans, je suis gardien d'immeuble et pianiste. Petite composition à moi, très récente, qui s'appelle Back to Back. C'est clairement inspiré d'un prélude de Bach très connu. Ça, c'était Bach, qui est maintenant ma composition, un petit bout. Et voilà, un petit extrait. Ce piano, il m'accompagne depuis de nombreuses années. Il m'a accompagné dans tous mes logements parisiens et avant d'être dans une loge, il était dans une cave. Dans mon ancien appartement, avant d'arriver dans cette loge, il n'y avait pas de place du tout pour un piano. C'était soit le canapé, soit le piano. J'ai pas trouvé d'autre solution que de le mettre dans la cave. Et j'allais travailler le piano et composer dans la cave tous les jours. C'est un château aussi pour moi maintenant. Alors moi, j'ai commencé la musique aux alentours de 9 ans. Totalement par hasard, ma famille, mes parents ne faisaient pas du tout de musique, encore moins de musique classique. Par hasard, j'ai commencé le piano et ça a été un vrai coup de foudre, tout de suite. Et je me suis mis à travailler des heures et des heures, tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec une professeure privée. Ensuite, j'ai poursuivi au conservatoire de Besançon, puis Haute École de Musique de Genève, où j'ai passé 4 ans. J'ai poursuivi à Berlin, puis New York, au Golansky Institute, et j'ai terminé à Paris, à l'École Normale de Musique. Malgré un long, long parcours, en effet, c'est très difficile de vivre de sa musique. Mais écoutez, c'est pour ça que je suis là. Donc avant, dans mon ancien appartement microscopique, je vivotais même de petits cours de piano, de concerts par-ci par-là, mais c'était très, très difficile. Je vivais aussi grâce au RSA, APL, et un jour j'en ai eu marre, j'ai voulu être quand même plus indépendant et essayer de m'en sortir. J'étais à la recherche d'un petit job, donc ça pouvait être vendeur de fruits et légumes, caissier, j'en sais rien. Et je suis tombé sur cette opportunité de gardien d'immeuble et ça me semblait être une bonne opportunité. J'aurais une loge où déposer mon piano, donner mes cours, composer sereinement et un petit salaire à côté en plus des cours de piano. Donc et ça s'est révélé vrai, je me sens beaucoup plus serein ici. J'ai une boule au ventre que j'avais avant, que je n'ai plus, ça c'est cool et je suis beaucoup plus serein, donc l'inspiration vient beaucoup plus facilement, c'est toujours mieux que d'être dans une cave. Et ouais, j'ai vu la différence, oui. J'ai enregistré même un album dans cette loge il y a peu, en pleine nuit, avec les moyens du bord. Mais ça me prend quand même beaucoup de temps, j'ai quand même beaucoup d'horaires à faire dans cette loge. Parfois ça peut m'empêcher d'organiser des concerts le soir ou des choses comme ça, donc c'est pas encore 100% en faveur de la musique, mais ça va venir, j'espère.
Audric de Oliveira, pianiste et gardien d'immeuble, c'est le héros de notre feuilleton cette semaine. On va le retrouver demain pour le deuxième épisode.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le lundi 13h50, Cécilia Arbona nous parle d'un lieu qui fait l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à Longwy, en Lorraine. Longwy qui tremble, Cécilia, pour son usine emblématique.
La manufacture des émaux, fondée en 1798 en redressement judiciaire. Cette faïencerie célèbre pour ses vases boules, brillants et colorés, joue sa survie ce jeudi devant le tribunal de commerce de Briey. Le président de l'usine, Martin Pietri, est un ancien fonctionnaire du ministère de l'économie. Il a acquis le site en 2015. « Je me suis toujours intéressé à l'artisanat », raconte ce descendant d'ébéniste de renom. Plusieurs de ses ancêtres ont signé des pièces de mobilier royal et lui a créé le groupe Emblème qui assure la promotion de 4 manufactures en France. Il confie avoir eu un coup de cœur pour les ateliers de Longwy à la frontière du Luxembourg.
Et l'usine qui travaille notamment pour la maison Dior a besoin d'argent.
Oui, c'est le paradoxe. En fait, les émaux de Longwy trônent dans les boutiques de l'avenue Montaigne à Paris. Mais derrière les vitrines de luxe, eh bien, l'entreprise est en détresse. L'augmentation des prix de l'énergie a pesé sur les coûts de fonctionnement des fours électriques. Il a fallu augmenter le prix des créations. Et puis la guerre en Ukraine a stoppé net des négociations d'exportation vers la Russie. Avant Noël, une opération de la dernière chance a donc été tentée avec l'ouverture du capital et une cagnotte en ligne. Quand M. Pietri nous a parlé de son idée, on s'est dit « mais il rêve », se souvient Cathy Ménéguin. Elle est chargée de retirer les coutures sur les moulages après cuisson à l'aide de lames de couteau ou de papier de verre. Le 13 février, elle célébrait ses 40 ans d'ancienneté. « J'ai battu le record de ma maman », se réjouit-elle. « J'étais dans son ventre qu'elle bossait déjà là. C'est pour vous dire. Moi, j'aime l'odeur de la terre qui sèche. Je tiens à mes collègues et à ma boîte. »
Et cet attachement à cette usine, Cécilia, a dépassé le bassin lorrain.
Oui, les commandes sur Internet et dans les boutiques de Nancy et de Metz reprennent. Le public achète par solidarité les céramiques iconiques, une chouette et une tortue. Et Cathy s'émerveille. On détient une formule magique. Tous nos produits sont dessinés et peints à la main. Et c'est le mariage du cristal et de l'or. Et puis, vous avez vu notre cagnotte ? Le patron avait raison, c'est un carton. Plus de 935 000 euros ont été recueillis. J'ai regardé encore ce matin. Plusieurs fois par jour, les 34 salariés consultent l'application Ulule sur leur téléphone. On ne peut pas décevoir les gens qui ont misé sur nous, ni les générations d'ouvriers qui nous ont précédés, poursuit Cathy Ménéguin. humain. D'ailleurs, le slogan de la tirelire « Longue vie, long oui », c'est bien trouvé, non? Eh bien oui, et le plan de continuation suscite effectivement de l'espoir et même de l'intérêt de la part de nouveaux investisseurs. Deux dossiers de reprise ont été déposés la semaine dernière.
Et on verra ce qui se passe jeudi devant le tribunal de commerce de Briey. Merci pour cette virée à long oui, Cécilia Arbona dans C'est la France. C'est une chanson, Julien Baldacchino. Aujourd'hui, vous recevez le leader du groupe de rock Kyo.
Benoît Power, qui est aussi le créateur des chansons du spectacle musical Monte Cristo qui vient de commencer aux Folies Bergères à Paris. Avec lui, nous avons parlé de Michael Jackson. Alors, ce n'est jamais facile d'en parler à la lumière de ce qu'on sait du chanteur en 2026, mais pour Benoît Power, ce qui reste très présent, ce sont des souvenirs d'avant qui sont associés à sa musique et à une chanson en particulier, Black or White.
Si j'ai choisi ce morceau-là qui est donc Black or White, c'est parce que je me souviens d'un moment où on était en famille, donc avec mes parents et mon frère, dans le canapé, devant le 20h, et je crois que c'était Claire Chazal, si je dis pas de bêtises, qui dit en exclusivité mondiale, alors je ne sais pas si c'était une exclusivité mondiale, mais le nouveau clip de Michael Jackson, Black or White, et c'était la version longue, c'est 11 minutes. C'est une super production, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent à l'époque. Et après ça, il y avait cette séquence, et c'est celle-là en fait qui m'a le plus marqué. On pense que le clip est terminé, finalement la caméra s'éloigne, on voit le tournage, et après il fait une choré qui dure, je sais pas, 6 minutes, où il n'y a pas de musique, il n'y a que du sound design, il fait que hurler, exploser les immeubles, les vitres, avec un univers si singulier et si particulier, qu'il n'y a pas d'équivalent.
Un souvenir comme celui-là, justement, qu'est-ce qu'il a comme impact quand après, on se met soi-même à faire de la musique ?
On a repris la chanson sur scène, un peu en mode blague, parce que quand on a commencé avec Kyo, on était très très rock, limite metal à nos débuts, et on faisait une reprise un peu musclée de Black or White sur scène, où j'avais osé faire un pas ou deux. Et je crois même, si je dis pas de bêtises, qu'il y a un DVD de Kyo qui est sorti, où on peut voir la preuve de ce méfait. Protection for gangs crossing nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. Gonna spend my life being a color.
Alors, ce clip est signé John Landis. C'est déjà lui qui avait signé le clip d'un autre tube de Michael Jackson, c'est Thriller.
Oui, et ces clips vidéo, ils sont de moins en moins nombreux aujourd'hui, et ça, Benoît Power le regrette.
Je suis pas pourtant un grand nostalgique, mais sur ce coup-là, je suis extrêmement triste. Aujourd'hui, l'industrie musicale nous fait comprendre que c'est quasiment inutile par rapport à l'impact qu'ont des contenus de réseaux sociaux. On peut faire un TikTok qui va faire 10 fois le nombre de vues d'un clip qui t'a coûté 5 fois plus cher, ou 20 fois plus cher. Et pourtant, nous, pour Kyo, je pense que c'était vachement important. Mais c'est vrai que j'étais hyper impliqué et passionné en fait par la relation de la musique à l'image.
On a commencé en parlant d'une chanson qui vous avait marqué. Vous avez créé des chansons qui ont marqué d'autres gens. Se dire qu'en tant qu'auteur-compositeur, on a créé des chansons qui sont attachées à des souvenirs, c'est quelque chose qu'on a en tête parfois quand on se lève le matin.
C'est quelque chose que je comprends parfaitement, parce qu'en tant que passionné de musique, je ressens ça. Si la question qu'on pose, tu vas sur une île déserte, t'as un album à prendre, lequel tu choisis, c'est jamais, mais jamais l'album que t'as écouté la semaine dernière. C'est toujours l'album qui t'a marqué quand t'es ado. Et en l'occurrence, quand on a sorti l'album Le Chemin, c'est ce public qu'on a touché, ce public adolescent. Donc je pense qu'il y a un paquet de gens qui, si on leur posait cette question de l'album de l'île déserte, diraient peut-être Le Chemin.
Et alors du coup, qu'est-ce que c'est dans la musique qui a ce pouvoir d'être associé à des souvenirs, d'être associé à des moments?
Il y a deux véritables machines à retourner dans le temps. Ce sont la musique et les odeurs. Je pense qu'une odeur peut, en une fraction de seconde, faire ressentir l'état émotionnel avec qui t'étais, l'ambiance. Et je pense que la musique, c'est pareil. C'est-à-dire que quand t'entends une mélodie, tu sais avec qui t'étais, quel moment, quel concert. Je ne sais pas répondre à la question, mais je sais que c'est réel.
Michael Jackson, c'était donc le choix de Benoît Poher.
Benoît Poher qui est auteur donc des chansons de Monte Cristo, le spectacle musical. C'est à Paris, aux Folies Bergères, jusqu'à la mi-avril. Et puis à partir de septembre, en tournée dans toute la France.
Merci Julien Baldacchino et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est le programme chez vous dans un instant?
Eh bien on va commencer la semaine en parlant de la faillite mondiale de l'eau.
A tout de suite.